8h30.
Merci beaucoup, Dan. On va maintenant parler de sucre parce qu'on reçoit en studio une auteure, une nutritionniste, mais auteure d'un livre « Sucre, vérité et conséquences ». Il s'agit de Catherine Lefebvre qui est en studio avec nous. Madame
bonjour.
Lefebvre, bonjour.
Salut, Catherine.
Bonjour. Donc, aux éditions Édito, c'est ça que je cherchais.
Oui.
D'abord, expliquez-nous, est-ce qu'on consomme trop de sucre de façon générale?
Oui, puis en fait, je veux juste préciser que c'est la deuxième édition de ce livre-là. Donc, la première édition est apparue en 2016.
Oui.
Il sort aujourd'hui en librairie et c'est déjà, on a des nouvelles données sur la consommation de sucre dans la population canadienne. On a aussi des nouvelles données par rapport à la consommation de boissons sucrées. Je vous apprends rien, là. Je pense pas que c'est surprenant de constater que les adolescents sont les plus grands consommateurs de boissons sucrées. Ils en consomment l'équivalent de près de 700 millilitres par jour en moyenne. Donc, c'est des grandes quantités. Donc, il y a ces nouvelles données-là. Mais après, par rapport à la quantité de sucre qu'on consomme, c'est un peu difficile à évaluer parce qu'on le trouve un peu partout, le sucre, finalement. Donc, de savoir, OK, il y en a dans mes biscuits, il y en a dans mes céréales, il y en a dans le lait au chocolat, dans toutes ces affaires-là.
Mais
c'est
où on le consomme le plus?
Les boissons sucrées.
Fait que c'est nos boissons, c'est nos jus, nos Coke, nos Gatorade,
ouais,
etc.
Oui, puis je vous dirais, ça, là, ce qu'on entend souvent parler, on va souvent nous dire, ah, les boissons gazeuses ordinaires, on en boit beaucoup moins d'année en année, on voit les ventes chuter.
Ça, c'est vrai, oui.
Ça, c'est vrai. Donc, on était presque 30 % de chute des ventes des boissons gazeuses ordinaires. Mais quand on regarde là, le marché des boissons sucrées, les boissons énergisantes, les boissons, les eaux aromatisées, le vitamin water, cette affaire-là, les cafés, moi, j'appelle ça les cafés, tu sais, les cafés gâteaux. Les cafés à tarte à citrouille, les cafés au gâteau forêt noire.
On aime ça.
Hey, les ventes, là, ça, là, c'est exponentiel.
Ah,
c'est,
oui.
Donc, de dire qu'on boit moins de boissons gazeuses, oui, c'est vrai, mais on s'entend que...
Ça a été remplacé
totalement. Ça a été remplacé. Ce marché-là a évolué.
Mais il y a des bébites à sucre, pareil. C'est pas parce qu'on boit moins de coke
qu'on consomme moins de sucre. Ça,
mais
c'est
Catherine, il n'y a pas si longtemps, tout le monde disait les jus, c'est fantastique. Je suis content qu'on se rende compte que souvent, il n'y a pas la pulpe.
Oui,
puis en plus, c'est que c'est un concentré de sucre, là, comme d'autres sucres.
Absolument. Donc, c'est liquide. Hein? Moi, je donne toujours l'exemple, tu sais, boire un jus, une boisson sucrée, n'importe quoi, là. Boire du liquide sucré, c'est facile. Tu sais, à un moment donné, il va faire chaud, là, puis on va vouloir boire une boisson sucrée, désaltérante, pétillante,
ben
tout
ça. Avec
c'est
de l'alcool, si on, par-dessus, ça sera encore
en
plus
fun. Mais c'est facile de boire du liquide sucré. Manger la même quantité de sucre, là, mettons qu'on irait une cuillère à la fois, pas mal moins intéressant. Okay. Mais pourtant, on le fait à chaque fois, on le fait à chaque jour, on le fait même plusieurs fois par jour en buvant.
Mais dans
du
gâteau, de tous les desserts, là. Moi, je suis un sucré, là. Je suis plus que salé, là.
Ah oui.
Et... Moi, ça me prend du sucre, puis je le sens physiquement.
Ah oui,
après chaque repas?
Mais après chaque repas, puis après chaque course, puis après, j'ai un rush de sucre, là. J'ai besoin de sucre. Là.
Ben, okay. Après une course, c'est différent. Là. C'est plus un besoin physiologique, c'est normal. Vous avez dépensé de l'énergie, on a comme besoin de refaire. Tout le monde a ce besoin. Moi, je ne suis pas sucrée du tout. Puis moi aussi, si je vais faire une longue randonnée de vélo, je vais avoir besoin de sucre. Ça, c'est normal. Mais de dire, ah, j'ai besoin de sucre après un repas, ça, c'est une habitude. Ce n'est pas un besoin, c'est vraiment
une habitude. Ma course, là, ça, c'est un besoin. Parce que moi, je cours, là, OK? Je vais chez Plaine, je fais 5-10 km, je reviens, c'est sûr, je vais prendre une boisson sucrée.
OK.
Ah, mais ça n'a pas besoin d'être une boisson sucrée.
Non, mais je vais prendre un Gatorade
contre...
ou je vais prendre quelque chose comme ça. Là. Je ne prendrai pas juste de l'eau.
Oui, non, mais ça, c'est normal. Ça, moi, Gatorade, je ne suis juste pas capable de boire ça. Je trouve ça dégueulasse, fait que je me déshydrate. Mais ça, c'est un autre problème. Mais quand je fais des longues randonnées de vélo, c'est sûr que je me fais ma propre boisson sportive. Je vais mettre un petit peu de jus, un petit peu de sel dedans, mais ça revient au même, puis ça, c'est totalement
du
correct.
Sel, du sucre. OK. Ouais. Mais. Est-ce que, parce qu'on vient de parler du cancer du mère-la-bombe, il y a des gens qui associent le sucre au cancer. Est-ce que c'est vrai?
Bien, en fait, ce qu'on étudie en ce moment, on étudie plein d'affaires entre le sucre et l'impact sur la santé. Ce qu'on sait ou ce qu'on recommande d'emblée, c'est qu'il y a certains cancers dont l'obésité fait partie des facteurs de risque. Donc, si indirectement, le sucre peut être un responsable de l'augmentation
ça fait
de l'obésité.
Agresser, donc,
donc, c'est ça. Puis, la Société canadienne du cancer a établi une dizaine de cancers qui sont, tu sais, qui ont un lien avec l'obésité, puis on va miser sur ces cancers-là. Après, il n'y a pas d'effet néfaste de diminuer notre consommation de sucre. Fait que, tu sais, à un moment donné, bon, s'il y a un lien avec le cancer, tant mieux qu'on diminue notre consommation de sucre, mais on sait pertinemment qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, du diabète, maintenant, on fait de plus en plus de liens avec la maladie d'Alzheimer aussi, toutes les maladies vasculaires, donc la démence comme la maladie d'Alzheimer, qui touche de plus en plus de gens aussi.
Est-ce qu'il y a des bons sucres, comme par exemple le miel, le sirop d'érable ou les fruits? Y a-t-il moyen d'avoir du meilleur sucre ou du bon sucre?
On aimerait donc ça que ce soit meilleur, mais en fait, je pense moi, ce que j'utilise comme... J'utilise du sirop d'érable et du miel à la maison pour la simple et bonne raison que, un, ça a meilleur goût, on est d'accord là-dessus, et ça vient d'ici.
C'est la seule raison, mais pour la
c'est
santé, ça
raisons.
Change rien.
Du sucre, c'est du sucre.
Exactement. Donc, de verser une cruche de sirop d'érable dans mon gruau le matin, c'est pas parfait.
On se fait dire qu'il faut manger des fruits tout le temps. C'est sucré que le diable, les fruits. Mais non,
oui.
Mais c'est vrai.
Oui, mais ça a plein d'autres bénéfices.
Ça, oui, ça. Mais c'est quand même sucré.
Mais quand c'est des fruits. Donc, tu disais, Marc, tantôt, faire un jus. Si vous avez déjà fait un jus à la maison, là, regardez dans votre filtre de jus, il y a toutes les fibres. Toutes les fibres sont
là.
Oui. Fait que nous, on prend de l'eau, le sucre, une poignée de vitamines, c'est ça qu'on boit. Mm-hmm. Tandis que quand on mange un fruit, ben, premièrement, on mange une orange. Alors que si on se fait un jus d'orange, on va mettre quoi? 2-3 oranges pour avoir un verre correct, là.
Ouais.
Fait que, qui va manger 3 oranges en ligne? Habituellement, pas tant.
Ouais.
Encore une fois, c'est un peu comme les boissons sucrées. C'est très facile de boire un verre de jus d'orange le matin, le midi, tu sais, tout ça. Puis je pense que c'est le côté, l'association qu'on fait avec la santé. C'est pas juste le jus, mais il y a plein d'aliments comme ça qu'on va associer à certains bienfaits, puis qu'on va se dire, c'est comme ça, un passe-droit, le jus. Là, en ce moment, c'est les trucs vegan, tout ça. Mais tu sais, c'est hyper transformé, par exemple, mais c'est vegan. Fait que là, on le met dans notre panier d'épicerie puis on se pose plus de questions. Mmh. C'est du jus, il y a des antioxydants, on pose plus de questions.
C'est marqué sans cholestérol, c'est marqué
sans
lactose. On est rendu, on achète le marketing, on n'achète pas ce qu'il y a dans notre boire.
C'est ça, fait qu'il faut se poser un petit peu plus de questions, finalement.
Je veux savoir, il y a des gens qui disent qu'il y a un cartel du sucre qui s'est imposé au fil du temps. Y a-tu un lobby du sucre? Comment ça se fait qu'il y en a autant dans tout puis que tout le monde met ça partout? Y a-tu des gens qui ont des intérêts économiques là-dedans, ce qu'on achète puis qu'on consomme du sucre?
Bien, c'est sûr que le lobbying alimentaire est très fort. Puis, en plus de ça, le sucre, le sel, le sirop de glucose fructose, là, le sirop de maïs, c'est des ingrédients qui coûtent très, très... qui coûtent à peu près rien, finalement. Mm. C'est inné, hein, le goût pour le sucre. Donc, on est tous un petit peu des bébites à sucre en partant. Puis après ça, ça se développe ou ça se détériore, notre affaire. Donc, on aime sucré, on aime le salé. Pour l'industrie, ça coûte à peu près rien d'ajouter du sel puis du sucre. Et donc, ça fait qu'on adore ces aliments-là. Ils ont une meilleure marge de profit.
Ça coûte pas cher.
Fait qu'on achète des produits
J'ai une question que je rêve d'entendre quelqu'un me répondre un jour. Pour vrai. Ça touche exactement à ce que tu viens de dire.
Mm.
Le corps humain, c'est super bien fait. La nature en général, tout a du sens. Explique-moi comment ça se fait qu'on n'ait pas des crinqués de brocoli, mais qu'on ait des crinqués de sucre et de sel.
Non, c'est vrai, ça.
Ben, en fait, c'est que justement, le goût sucré, c'est inné. C'est ce qui nous a permis d'évoluer. Là, on retourne en arrière.
Ouais.
Là, ça nous a permis d'évoluer. Puis le goût amer, c'est ce qu'on va craindre un petit peu plus. Donc ça, c'est le brocoli, les légumes, tout ça, au niveau du goût. Mmh. Parce que dans la nature, pour les animaux, par exemple, ça peut être synonyme d'un poison ou des choses comme ça. Là, je suis très, très de base. Là, on est vraiment dans l'évolution de l'humain. Mais là, le sucre est devenu hyper disponible. On n'est plus chasseur-cueilleur. Là. On est bien, bien loin de tout ça. Donc là, le sucre est devenu très, très, très présent et toujours, toujours, toujours disponible. Donc, notre environnement nous rend... c'est devenu juste la solution facile, la solution de rechange.
Donc, ça veut dire qu'au début de l'évolution, on cherchait plus le sucre parce qu'il nous était plus utile à cette époque-là, il y a très, 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 très longtemps.
Oui, puis on l'avait pas tout le temps.
Là.
On avait
On
l'a systématiquement d'emblée beaucoup. Puis aussi, ça fait aussi que ça trafique notre palais. On est tellement habitué à manger des trucs hyper sucrés et hyper salé, qu'après, quand on mange une pomme, on trouve ça acide. On boit de l'eau, on trouve ça plat.
C'est sucré. Mais est-ce que ça se peut que c'est comme une drogue, ça crée, il y a une dépendance au sucre?
Ben, en fait,
parce que moi, je le sens physiquement, ouais, mon besoin de sucre. J'ai l'impression que c'est comme...
Comme si t'étais un fumeur.
Je suis drogué un peu, oui.
Ben, en fait, y ont eu quelques études dans le passé qui ont associé le sucre à la dépendance à la cocaïne, par exemple. On avait fait des études chez les rats où là, on avait des rats qui étaient dépendants à la cocaïne puis des rats...
Dépendants au sucre.
Ben, en fait, on les rendait dépendants au sucre rapidement. On les mettait dans une cage. Il y avait le choix entre une injection de cocaïne ou de l'eau sucrée, puis ils allaient tous vers l'eau sucrée. Mais là, ça, c'est sur des rats. Ça se transpose pas chez l'humain. On peut pas évaluer.
Généraliser, ouais.
Exactement. Sauf que là, les plus récentes études essaient de voir est-ce que ce serait pas plutôt une dépendance un peu comme la caféine. T'sais, la caféine, à un moment donné, on est dépendant à la caféine, ceux qui boivent du café. Mais on n'est pas, je veux dire, c'est pas la dépendance à la cocaïne, c'est pas des drogues dures non plus. Mais ça reste que on crée une espèce de dépendance.
Il y a un manque.
Il y a un manque. Puis à ça s'ajoute aussi tout le côté psychologique. C'est tellement émotionnel, manger. Si on ajoute à ça, manger ses émotions. Tu sais, on a une peine d'amour, on va pas bien, on est déprimé, on est tanné de l'hiver, puis on mange des biscuits puis de la crème glacée, tu sais. Et ça s'ajoute à ça. Ça s'ajoute, okay, au côté physiologique d'avoir toujours envie de sucrer.
Je veux savoir, parce que notre chouchou ici, là, il vient de commencer comme José Arsenault, qui l'a convaincu, je pense, une diète cétogène, le fameux keto, là. Lui, c'est plus de sucre puis beaucoup de gras. Eux autres, c'est le bacon là, à la planche. Ça, est-ce que c'est mieux, les vertus de ça? Est-ce que vous y croyez?
Ben, en fait, j'ai fait mes devoirs parce qu'on me posait souvent la question. Fait que dans la deuxième édition, j'ai vraiment fait un espèce de portrait de la littérature scientifique sur la diète cétogène parce que, honnêtement, je la connaissais pas tant que ça. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Puis moi, ce que j'essaie toujours de me dire, c'est est-ce que ça peut causer du tort? Donc, est-ce que ça peut causer du tort à long terme de manger que des protéines et du gras, finalement? La réponse, c'est qu'on le sait pas parce qu'on les a pas, les études à long terme. Ce qu'on a étudié, c'est la diète cétogène sur les performances physiques, les gens qui s'entraînent, qui courent, qui font du vélo, des marathons, sur la perte de poids et sur les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Ce qu'on voit, c'est que par rapport aux performances physiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher notre énergie dans les gras, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui veut augmenter ses performances, tout ça. Mais c'est une façon d'aller chercher l'énergie qui est plus, qui est pas aussi efficace. Fait qu'on gagne parce qu'on a beaucoup plus de réserves de gras que de réserves de glucides, mais on perd parce que pour aller chercher cette énergie-là, c'est moins efficace. Et donc, au chrono, là, vraiment, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on fait bien du sport.
C'est le résultat.
C'est le résultat. Ben, selon les études qu'on a en ce moment, le résultat n'est pas tellement là. Donc,
Il est là pour la perte de poids, mais il n'est pas là.
Mais il est là pour la perte de poids, mais de 3 à 6 mois. Donc, au début, ça marche. Fait que là, on est bien énervé avec ça. Fait qu'on se dit, ça y est, j'ai trouvé la bonne diète pour moi. Puis en plus, je peux manger du bacon. Mais à long terme, on connaît pas les effets. Puis à un moment donné, c'est, tu sais, du bacon, du beurre, de la crème, tout ça, là, moi, je serais pas surprise de voir des maladies cardiovasculaires apparaître plus tard.
Là, Catherine, en terminant, là, pourtant, je suis quelqu'un, tu vois, là, j'ai pas d'excès de poids, je cours, je mange à peu près ce que je veux, puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui nous disent quoi manger de plus en plus. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a comme des polices de la bouffe. C'est rendu que là, la viande, faut faire attention, les aliments transformés, le sucre, les aliments qui sont pas bio, les OGM, le sel, les colorants, les gras trans, les agents de transformation, les pesticides dans les légumes. Non, mais ça finit plus. C'est parce que je te dis ça, je veux pas t'énumérer tout ce que j'ai, mais c'est qu'à un moment donné, là, si on suit tout ce qu'on entend, on mangera plus rien.
Ben, en fait, moi, je pense qu'au contraire, c'est sûr que les aliments ultra transformés, c'est définitivement un problème. C'est probablement le plus gros problème de l'alimentation moderne. Mais justement, quand on se distancie le plus possible des aliments ultra transformés, on n'a plus besoin de penser à rien d'autre. Sauf que moi, je pense que manger de la viande, c'est pas la fin du monde, mais manger de la viande en quantité astronomique à tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est pas parfait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'en manger complètement? Non, parce que je pense pas que de manger du faux fromage puis de la fausse viande, c'est une meilleure idée, tu sais. Donc, parce que ça demeure ultra transformé. Tu sais, moi, que ce soit vegan, ultra transformé ou pas ultra transformé, tu sais, moi, c'est l'ultra transformation qui m'agace vraiment puis que je pense que c'est vraiment là le problème.
Qui est nocif.
Et après ça, une fois qu'on a délaissé les aliments ultra transformés, on peut en manger de la viande, on peut en manger du fromage, on peut en manger. Après ça, on a juste plein de choix.
C'est ce que tu as nommé, dans le fond, c'est qu'au fil des années, c'est toutes des affaires que techniquement, ça devrait pas exister. C'est juste parce que le marché le permet.
Puis le marché l'offre aussi.
C'est ça.
Puis hier, je vous écoutais, puis je trouvais ça super intéressant.
Mais c'est toujours super intéressant quand tu nous écoutes.
Oui, surtout quand je vous écoute.
Oui, j'avoue que si tu n'écoutes pas, c'est pas tant intéressant.
Je suis tombée sur votre conversation par rapport au changement. Puis ça, je trouvais ça super intéressant parce que... Puis l'alimentation, c'est ça. C'est que on le sait que c'est pas bon, les boissons gazeuses. On le sait que c'est pas bon, les aliments ultra transformés, ces choses-là.
On a peur du changement.
Mais c'est ça.
Je te l'ai dit hier.
Oui.
Dis pas on.
Mais c'est vrai que la réticence au changement, c'est un peu comme avec le tabac. On le sait que c'est pas bon fumer, mais il y a encore plein de monde qui fume. T'sais.
Là, c'est quoi la solution? Est-ce que toi, tu fais partie? Parce que je sais qu'on a déjà reçu ici des gens de la coalition au poids qui disent qu'il faut taxer les boissons gazeuses. Mm-hmm. T'es-tu d'accord avec ça?
Ben moi, je regarde les études. Qu'est-ce que nous démontrent les études? Je pense pas que c'est la seule et unique méthode pour réduire la consommation de boissons sucrées, mais par rapport à ce qu'on peut faire de concret. Moi, dans mes conférences, là, je dis tout le temps aux gens, s'ils boivent pas de boissons sucrées, tant mieux, là, mais si je leur demande une chose, s'ils ont une chose à faire, juste ça, là, après ça, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, là, ça me dérange pas. Mais si vous pouvez arrêter de consommer des boissons sucrées au quotidien, je vous dis pas de jamais en boire, de jamais en consommer.
Parce que la taxe, là, c'est très mitigé. Hein? L'impact des États aux États-Unis où ça n'a pas marché, ça a été un fiasco. Puis l'autre problème que j'ai avec cette taxe-là, c'est une taxe régressive. Ça veut dire parce que plus les gens ont des revenus modestes, plus ils vont consommer des boissons gazeuses. Souvent, c'est une taxe qui va taxer davantage les gens à faible revenu plutôt que les gens à haut revenu. Ce qui est contraire d'une taxe normale.
Ouais, je comprends. Mais
la taxe par rapport au tabac, par exemple, tu sais, je veux dire, les cigarettes, ça coûte une fortune. Il y a plusieurs personnes dans le milieu défavorisé qui fument, ça les désavantage aussi dans ce cas-là.
Je vais te donner d'autres exemples. C'est parce que le sucre, oui, il y a les boissons, mais comme tu as dit tantôt, on en consomme dans tout. Mm-hmm. Et là, est-ce qu'on va se mettre à taxer aussi les desserts? Est-ce qu'on va taxer les jus de fruits? Est-ce qu'on va taxer... C'est que... Je sais pas, puis dans les États où ils l'ont fait, il y a même des États aux États-Unis où ils l'avaient fait, puis ils ont vu que ça marchait pas, ils ont enlevé la taxe
Dans quel État?
En Alaska.
À New York, ça a été un projet de loi qui finalement n'a pas abouti.
Oui. Mais je pense qu'il y a 8 villes américaines en ce moment, mais c'est sûr que là, en ce moment, toutes les études qu'on a, c'est les boissons sucrées, les jus sont pas là-dedans, puis les desserts, puis ces affaires-là non plus. Puis je pense que le gros point aussi là-dedans, c'est que c'est une chose taxée, mais c'est l'investissement. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Il faut absolument l'investir dans la promotion de la santé, l'éducation, puis aussi dans l'accessibilité.
Là, Catherine, là, tu crois pas au Père Noël, j'espère, alors je t'ai rendu là. Mais ben, tu penses-tu que le gouvernement va pas prendre ça et va pas se le mettre dans les poches? Tu penses qu'il va le réinvestir pour nous aider
si,
après?
Non, mais get ben si.
Moi, j'ai de la misère à croire
ça. OK, mais je te demande, je t'oblige à choisir A ou B. Plus de taxes sur l'essence ou une taxe sur le Pepsi?
c'est sûr.
Oui, mais là, c'est pas une réponse.
Mais je pense que je dirais plus le Pepsi.
Ben voilà.
Bon.
Mais je
pense. Sinon, ça serait quoi là? Tu sais, parce que. Moi, je me dis,
c'est pas nécessairement une bonne solution, mais à travers différentes solutions, celle-là, moi, me gêne pas. C'est juste ça.
Parce que définitivement, il faut travailler sur l'environnement dans lequel on vit pour que notre environnement soit plus favorable aux saines habitudes de vie. T'sais, c'est sûr que si on va à l'aréna, à l'urgence, au dépanneur, à la pharmacie, à l'épicerie, ou t'sais, au resto, n'importe où on va, c'est les boissons sucrées et les aliments ultra transformés sont disponibles. C'est souvent l'option la moins chère. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, il faut changer l'environnement.
Une bouteille de vin à tous les soirs, pas sûr, il y a du sucre là-dedans aussi. Là. On en reparlera une autre fois. Mais
il y en a beaucoup moins que dans une boisson.
Il y en a moins que dans un Pepsi.
Il y a plein de taxes.
Catherine Lefebvre, auteure de Sucre, vérité et conséquences aux éditions Édito. Merci beaucoup d'être venue nous visiter aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Le retour d'Éric Duhaime,